pour aucune, ils s'engagent et puis voilà, nous marchons avec eux.
Donc ce sont des causes qui mobilisent.
Bien sûr, bien sûr.
D'accord. Kalinda Munda, vous êtes aussi spécialiste en genre. Dans un contexte déjà difficile pour tous les jeunes, c'est encore plus particulièrement difficile pour les jeunes filles.
Exactement.
Comment faire pour renverser la tendance?
Effectivement, il y a beaucoup de défis, effectivement, comme vous l'avez dit. L'environnement est déjà très contraignant du point de vue socio-économique et politique, comme on a vu. Mais pour la jeune fille, elle est encore sous le joug de toutes ces discriminations, toutes ces violences qu'elle vit au quotidien et qui se perpétuent. Il y a une certaine reproduction de violences sexuelles et violences basées sur les gens qui sont encore ancrés dans nos us et coutumes. Et ce qui fait que ça bloque la jeune fille à aller vers son épanouissement et à réaliser son plein potentiel. Mais effectivement, là où il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. C'est comme ça qu'on essaie d'imaginer à des programmes qui renforcent l'accès de la jeune fille à l'information, qui lui permet aussi d'accéder aux différentes ressources, qui soient matérielles, qui soient intellectuelles et qui soient financières.
Et les problèmes des jeunes filles, selon qu'elles soient à la capitale ou en province, différencient à quel niveau à peu près?
Les problèmes sont similaires. Je dirais que, bien sûr, quand on parle à l'Est, on sait qu'il y a aussi cette insécurité liée à la présence des forces groupes armés qui a créé le viol, qui est encore une fois utilisé comme
une arme de guerre dans la capitale.
Bien sûr, c'est ce que je voulais juste donner, cette différence. Il y a aussi le viol aussi dans la capitale et même dans les régions où il n'y a pas d'insécurité. Mais imaginez maintenant que la donne de viol dans les contextes de conflits devient un problème assez particulier qui fragilise davantage encore la femme qui est déjà exposée. Et donc, pour moi, les problèmes sont similaires et donc vous pouvez le voir au niveau de la situation actuelle. On ne peut pas dire qu'il y a des femmes qui sont beaucoup plus avancées ou des jeunes filles qui sont beaucoup plus avancées dans notre pays, d'une province, par rapport à l'autre. Les problèmes sont similaires, les défis sont les mêmes. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs l'implication des femmes et de la jeune fille par-ci, par-là.
Je vais me tourner auprès de Eloi. Justement, en termes de formation, pour aider toutes les couches de la société, de la jeunesse, quel secteur ou quelle filière le gouvernement devrait-il investir davantage pour aider justement ces jeunes à s'en sortir?
Merci beaucoup. Je dirais, si le gouvernement veut aider surtout les handicapés, c'est en commençant d'abord par l'éducation. Parce que c'est par l'éducation que quelqu'un peut s'épanouir dans la vie et se retrouver. Et si tu as une bonne éducation, la discrimination ou pas, Tu vas avancer avec tes objectifs et puis tu vas travailler partout où tu seras et puis tu vas retrouver quelque chose qui ne viendra pas pour rester, voir comment on m'a discriminé et puis je peux rester dans mon coin et puis voilà. Donc on travaille surtout sur aussi la leadership, le leadership. Nous avons des formations que nous organisons avec nos partenaires, surtout pour l'inclusivité des jeunes handicapés dans la société.
Pour qu'ils croient qu'en fait il est possible de...
Surtout ça, nous leur donnons aussi cette chance-là parce qu'il y a d'autres familles, quand tu viens dans une famille, ils te disent, bon, moi je suis handicapé, je ne peux pas étudier, donc je ne ferai rien. Alors nous, on est là comme témoins vivants pour leur donner l'espoir qu'ils ont avec... les potentiels que tu as, tu peux faire mieux que les autres. Donc, il ne faut pas perdre l'espoir.
Oui, ça, c'est ce que vous faites en tant qu'individu, en tant que structure. Mais qu'est-ce que le gouvernement, à son niveau, en tant que politique nationale, devrait faire pour vous?
Pour nous, je dirais, il faudrait d'abord commencer par accepter d'abord les handicapés par toutes les institutions qui prennent des décisions. Donc, c'est très important. Et par la discrimination que nous parlons, si déjà vous voyez dans un ministère ou un cabinet quelqu'un qu'il n'y a pas de handicapé, c'est déjà une discrimination. Donc on veut voir dans toutes les dispositions des preneurs de décisions que nous puissions aussi avoir des handicapés dedans. Et là, ça va nous donner l'espoir que non, les combats que nous sommes en train de mener, et il y a le gouvernement qui nous soutient aussi à ça.
Mais surtout dans le recrutement, dans la fonction publique.
Surtout ça, oui, exactement.
Mais ils ont enfin tout un ministère des personnes avec un handicap dirigé par une femme.
Nous remercions déjà les présidents parce qu'il a quand même écouté ce qu'a été notre besoin, notre souci, et il a réagi. Donc, merci beaucoup, le président.
On va parler du système éducatif avec vous. Contenu. Quelle est votre lecture de ce système par rapport à l'emploi en République démocratique du Congo?
Je reconnais qu'il y a beaucoup de défis par rapport à notre système éducatif. avec, je crois que le problème principal tourne autour d'un fait social où le niveau de pauvreté bat son plein. Où on est en contact avec ce monde éducatif personnellement et on mène plusieurs projets avec l'UNICEF par rapport au domaine éducatif. On remarque que ce sont la prise en charge des enseignants d'abord qui doit suivre, qui doit être vraiment revue, et nous encourageons notre politique à revoir cela, mais aussi je crois que c'est
de la responsabilité. La gratuité de l'enseignement de base.
Et la gratuité déjà qui est une très bonne chose, donc là nous sommes dans la faisabilité qui est une chose très importante. On ne le sent peut-être pas de la même manière dans la capitale que dans les provinces, dans les coins reculés. Pour eux d'ailleurs ça a un très grand impact. Je suis parti par-ci par-là à l'intérieur du pays et je sais déjà que ça a un très grand impact pour eux parce qu'ils n'attendaient que ça. Donc il y a un problème des finances, mais il y a un problème aussi d'équipement.
Donc
en termes d'équipement.
Vous, le fait qu'on dise à ceux qui sont à l'intérieur qu'ils n'auront pas besoin d'argent de loyer, ils n'ont pas besoin d'argent de transport par rapport à ceux qui sont dans des villes, c'est pas une discrimination, c'est bon. C'est logique, c'est justice.
Mais évidemment, ça avance à deux niveaux, ça avance à deux vitesses. Je crois que le contexte de la ville doit être pris d'une manière et le contexte rural doit être pris aussi d'une certaine manière. Je crois même que le ministère est en train de faire des études pour savoir un peu faire la différence entre ces deux mondes, parce qu'il y a deux réalités différentes. Mais je crois...
Est-ce qu'on ne voit pas quand même une certaine cassure avec la mise en application de cette nouvelle mesure? Beaucoup d'écoles apparemment ont du mal à s'équiper et même à payer les enseignants. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez?
Mais oui, je constate, surtout parce que dans le ministère de l'enseignement, il y a des catégories, il y a les catégories A, B, C. Donc toutes les écoles ne fonctionnent pas dans une même catégorie, n'ont pas les mêmes ressources financières qu'ils étaient en train de mobiliser avec la contribution des parents. Donc, ce qu'on leur propose par l'État devient pratiquement inégal par rapport à ce qu'ils percevaient. Je comprends leur démarche. Mais par ailleurs, dans le milieu rural, ce que l'État propose est en fait élevé par rapport à ce qu'ils percevaient et par rapport à ce qu'ils vivaient. Donc vous comprenez que dans le milieu rural, il se trouve assez satisfait, et ce n'est pas le cas dans le milieu urbain.
D'accord. Alors, Pascaline, selon le Partenariat mondial pour l'éducation, il y a plus de 3,5 millions d'enfants en âge d'aller à l'école qui ne sont pas scolarisés. C'est quand même un problème. Qu'au fond des organisations comme la vôtre pour justement essayer d'aider ces enfants qui quand même ont droit à l'opportunité d'étudier et de réussir dans la vie?
Oui, malheureusement, c'est très difficile de récupérer un enfant à 5 ans qui n'a pas étudié, mais souvent ça se remarque, ça se constate quand il a grandi, il devient jeune, il devient oisif, parce qu'il il est bon à rien, comme on le dit un peu dans notre société, et à ce moment, il devient même une menace pour toute la société. Aujourd'hui, ici, à Kinshasa, on parle du phénomène Kuluna. À l'Est, il y a des phénomènes Maïbobo, les enfants de la rue.
C'est les jeunes de la rue, c'est ça?
Les jeunes de la rue, même aujourd'hui, l'insécurité grandissante, ils sont en train de se livrer à des tueries, à des enlèvements, à des viols, et c'est devenu un phénomène incontrôlable, même pour le gouvernement. Et donc, vous vous rendez compte que quand c'est encore un enfant, on peut négliger. Mais quand ça devient un jeune qui est capable de rétorquer, ça devient un problème très sérieux. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de redonner une seconde chance à ces jeunes pour voir s'il n'y a pas moyen qu'ils les suivent le cursus normal, donc réintégrer l'école. On leur offre des formations extra-parascolaires, des formations qualifiantes en informatique, en entrepreneuriat, avec des domaines bien productifs. Et donc, on espère qu'avec ça, ces jeunes peuvent se rendre encore utiles à la société et pour eux-mêmes. Mais l'essentiel, comme on a dit ici, c'est d'insister, donner la chance aux enfants quand ils sont encore jeunes d'intégrer l'école.
L'égalité des chances est garantie par la Constitution congolaise qui dit là. Que faut-il faire pour donner la chance à tous les jeunes, notamment aux jeunes vivant avec handicap, qui votre ONG se bat?
La chance que nous pouvons donner aux handicapés, je pourrais dire rien que l'éducation. L'éducation, c'est la base. Donc quand quelqu'un est bien éduqué, il va se retrouver, comme je le disais tantôt. Donc, s'il faut continuer aussi avec des formations, peut-être, ça pourrait aussi les aider. Des formations, des renforcements de capacités en leadership, développement personnel. Un handicapé peut se retrouver dans la vie. Et puis, il n'y aura pas aussi plus des handicapés dans la rue comme nous le retrouvons. Donc ça peut aussi diminuer les taux des handicapés dans la société.
Est-ce que la discrimination, ce n'est pas le fait de se discriminer soi-même aussi? Parce que
c'est ça aussi.
On remarque aussi qu'il y a beaucoup de personnes avec handicap qui sont à la merci de tout le monde.
Oui.
Est-ce qu'ils ne peuvent vraiment pas s'accepter?
Surtout ce que nous sommes en train de dire. L'handicap, c'est un état d'esprit. Quand tu arrives déjà à s'accepter, tu vas voir que l'handicap n'est pas en toi. Donc il faut déjà commencer à s'accepter malgré ton handicap, que ça soit comme ça, que ça ne changera pas. Toi, avance avec ce que tu veux, ce que tu as comme potentialité, et tu verras que tu vas aller plus loin que ton handicap.
Alors, nous avons demandé à nos téléspectateurs de nous envoyer des messages sur Facebook sur comment ils voient l'avenir de la jeunesse en République démocratique du Congo. On va les suivre.
Justement, on commence avec Lambert Kille, qui est à Mbujimayi. Il dit ceci: en tant que jeune, je veux que notre système éducatif soit renforcé, car c'est le cerveau de la nation. Il nous faut doter nos universités de centres de recherche et d'infrastructures adéquates pour faciliter l'exploitation de nos potentialités.
Justin Kidiangabia, il nous écrit de Lubumbashi: je vais être le plus grand ingénieur du pays, c'est pourquoi je demande au gouvernement de nous aider avec la création d'emplois sur toute l'étendue du territoire.
Et également Robert Moïse Rubenga, plutôt à Goma, lui, il rêve d'un pays fort où il sera facile d'aller de l'est à l'ouest, du nord au sud, par la route et en un temps record, dit-il, un pays où il y aura réellement la paix.
Daniel Issa, il est à Kinshasa et il a un conseil. Il dit: les jeunes doivent comprendre que le bonheur n'est pas seulement au bureau, mais qu'on peut aussi être utile en étant jardinier, maçon,
etc. Voilà, beaucoup de messages. Hein. Ce sont juste quelques-uns des messages qu'on a sélectionnés pour vous. Et nous aurons peut-être l'occasion d'avoir, disons, les réactions de nos invités. Le temps de marquer une petite pause et de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Pour la seconde partie de Washington Forum, une coproduction VOA Afrique B1 que j'ai le plaisir de présenter ici à Washington avec Julie Sefou. Julie, bonsoir.
Bonsoir. Je vous rappelle nos invités de ce soir: Anthony Vanumwanga, chargé de projet à la Fondation Bomoko. Merci de continuer avec nous. Nous avons King Eloi, président de l'ONG Jeunes Vivants avec Handicap, et Pascaline Zamunga, coordinatrice nationale du cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes.
Alors, comment les jeunes voient-ils leur avenir? Nous avons posé la question à quelques personnes, quelques jeunes que nous avons rencontrés dans les rues de Kinshasa. Je vous propose de suivre.
Pour de nombreux parents, l'inscription des enfants à l'école était difficile. Et voilà que le nouveau président arrive, bouscule les choses. Il a imposé la gratuité. De nombreuses personnes étaient dans l'impossibilité de payer les frais. Aujourd'hui, leurs enfants sont à l'école, gratuitement. Vous voyez, c'est ce genre de choses que nous voulons. Nous espérons que des sociétés vont venir s'implanter, nombreuses, et donner du travail aux gens, que l'agriculture se développera, que les gens puissent manger suffisamment, comme ailleurs dans le monde. Voilà ce que nous attendons de ce gouvernement.
L'idée d'augmenter les salaires des soldats et des enseignants est bonne, mais il faut qu'ils continuent dans leur lancée. Nous voulons voir le changement à tous les niveaux. Tout le monde n'a pas vocation à travailler dans un bureau, alors vendeurs de soldats et autres, chacun dans son domaine doit pouvoir percevoir ce changement. Pas à 100% bien sûr, mais au moins à
50%. Ce que nous voulons avant tout, c'est du travail. C'est le manque d'emploi qui est à l'origine de tous ces coulounas. Certains gamins sans cœur choisissent la mauvaise voie pour avoir de quoi vivre. Ils prennent de machettes. Alors, nous aimerions que le président, qui a son peuple à cœur, Il a lui-même dit, le peuple d'abord, crée des emplois.
Je veux la paix, que ce pays s'améliore, que de grandes entreprises arrivent et donnent de l'emploi à nos enfants, afin que la paix règne dans ce pays.
Voilà, c'était des jeunes Congolais qui s'exprimaient par rapport à leur avenir. Pascaline Zamunda, selon vous, quel est le plus grand atout de cette jeunesse?
La jeunesse congolaise est entreprenante. Ça, on l'a tous remarqué, comme on l'a dit. Déjà, quand on parle de l'entrepreneuriat, la majorité des jeunes sont dans l'informel. Et vous allez voir que les jeunes, même s'ils n'étudient pas, mais au moins ils pensent à une activité qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, on reconnaît dans les secteurs du bâtiment, la construction, dans la menuiserie, dans la cordonnerie, dans la vente des crédits, dans tous les domaines presque, il y a les jeunes et de toutes les catégories. Donc ça, c'est une qualité que je reconnais aux jeunes Congolais. Et
d'ailleurs, dans les commentaires Facebook, un des téléspectateurs parlait de ces métiers qu'on pouvait faire, qu'on n'était pas obligé de rester dans les bureaux ou de chercher un emploi, disons dans les bureaux. Je t'ai vu un peu réagir par rapport à ça, Anthony.
Bien sûr, parce que vous savez, en côtoyant cette jeunesse dont je fais partie moi-même, on se rend compte que à l'image de notre pays qui regorge de plusieurs ressources naturelles, qui est un scandale géologique, je crois que c'est un scandale de talent chez nos jeunes. Les jeunes Congolais savent tout faire. Et dans chaque coin, vous retrouvez beaucoup de choses auxquelles vous ne pouvez pas vous y attendre. Je crois qu'il y a un problème juste de motivation supplémentaire pour eux, mais aussi de revalorisation de tous les secteurs. Aujourd'hui, la jeunesse croit qu'il ne faut réussir que ce soit par la musique seulement ou par le sport en jouant au foot. Ils ne savent pas que l'art, le métier, toutes sortes d'activités qu'ils peuvent faire sont génératrices aussi des revenus et fera aussi qu'ils puissent s'épanouir chacun dans son secteur. Je crois que c'est même cette lutte que nous menons, en fait, de valoriser et de motiver cette jeunesse. Elle a d'abord pas besoin d'argent, mais besoin d'être motivée. Elle a besoin que l'on croit en elle.
Il n'y a pas de métier. Besoin qu'on
croit en elle. Et voilà. Et je crois que ça pourra être un quelque chose qui va leur booster et leur permettre de donner des résultats escomptés.
Est-ce que vous ne pensez pas que dans cet encadrement, il est quand même temps de rechercher aussi la certification quelque part? Sinon, on a des jeunes fourre-tout, ils savent tout faire, mais finalement, ils ne sont pas qualifiés, ils ne sont pas compétitifs, ces jeunes Congolais.
Voilà, alors c'est un problème d'orientation pédagogique à l'école, comme on l'apprend, mais aussi un problème d'orientation professionnelle. Vous savez, quand quelqu'un sait faire beaucoup de choses, il faut juste l'orienter et le canaliser à bien le faire. Ça aussi, c'est la part de la société civile, mais bien plus de notre gouvernement, de savoir mettre des systèmes qui permettent à ces jeunes d'avoir des orientations qu'il faut par rapport à leur métier. Aujourd'hui, tout le monde croit qu'il faut faire l'université pour être quelqu'un de valeur, mais déjà avec un diplôme d'État et une réinsertion professionnelle pour rejoindre mon frère des personnes vivant avec un handicap, vous verrez qu'avec ce qu'ils savent faire, dans cette réinsertion professionnelle, en apprenant les métiers ou les arts, ils peuvent bien s'orienter et ils pourront bien évoluer.
Peut-être que le chef de l'État a une bonne volonté en mettant sur pied tout un ministère de la formation professionnelle, arts et métiers.
Bon, bien sûr,
on va construire des bâtiments et puis les moyens vont suivre. Mais à un moment, les jeunes se disent, moi, je ne peux pas aller là-bas, on trouvera que je n'ai pas le niveau qu'il faut. Moi, c'est le bac et puis plus 4, plus 5, plus 8.
Oui, je crois que bon, créer un ministère, ce n'est pas l'important, mais créer des mécanismes dans des ministères qui existent, oui. Je crois qu'aussi, il ne faut pas attendre que les jeunes reviennent vers le ministère. Je crois que c'est à l'État de chercher ces jeunes.
D'accord.
Il faut aller les chercher là où ils sont et je crois qu'ils sont motivés. Et là où ils sont, ils peuvent commencer à créer le développement dans leur milieu.
Alors vous, Eloi, comment voyez-vous l'avenir, surtout pour les personnes vivant avec un handicap?
Je rêve d'un avenir des personnes handicapées au Congo. Qui se sentira à l'aise de là où il est, d'entreprendre dans le métier où il se sent capable et surtout de promouvoir son talent et s'épanouir dans ce qu'il fait. Donc déjà, on a quelques handicapés qui vous font des histoires que tu vas voir à quoi sert son handicap, parce qu'il fait déjà des grandes choses que tu vas voir que même les personnes entre guillemets valides ne peut jamais le faire. Alors il suffit juste de promouvoir ce qu'il est en train de faire et lui donner des chances qu'il puisse évoluer avec ce qu'il fait. Donc c'est ce que je suis en train de rêver d'un handicapé avec qui il vient avec un projet quelque part et il trouve des gens qui peuvent les booster et et lui laisser se retrouver dans ce qu'il fait.
Alors, il y a aussi les infrastructures adaptées pour les personnes handicapées. On a quelqu'un qui, dans les commentaires Facebook, hein, qui parlait des routes pour aller de l'est à l'ouest, du nord au sud. Il faut aussi, et ça, ce n'est pas spécifique à la RDC, beaucoup de pays africains, malheureusement, n'ont pas de structures adaptées pour les personnes handicapées.
Nous avons du mal, surtout de ce côté-là, presque dans tous les bureaux ici au Congo. C'est un peu compliqué pour qu'un handicapé... Celui qui a une chaise roulante ou moi avec des béquilles, c'est un peu compliqué. Donc il n'y a pas vraiment...
Les aveugles puissent lire.
Il y a pas, c'est trop compliqué. Alors c'est pas, les bâtiments ne sont pas vraiment adaptés avec des handicapés. Donc c'est un message que je voulais aussi lancer peut-être au gouvernement. Parce qu'en construisant les bâtiments ou leur maison ou quoi, il faut toujours penser que non, il y a un handicapé dans la société qui peut nous rejoindre ici. Il faut toujours penser à mettre des marche-pieds pour qu'un handicapé puisse s'en servir. C'est très important. Donc déjà, dès que vous ne mettez pas des marche-pieds, donc vous m'écartez déjà de venir chez toi. Donc il n'y a pas moyen de
discrimination.
On appelle ça une rampe en termes techniques, domaine technique aussi. Mais je tiens à préciser à mon ami que déjà dans le domaine de l'architecture, tous les bâtiments publics, tous les plans qui sont faits à l'université, à l'ISAU, à l'INBTP, ils tiennent compte. Souvent, sur le bâtiment privé, ou bien, mais sinon, tous les bâtiments public aujourd'hui, ils tiennent compte des rampes, c'est vraiment une exigence parce qu'évidemment,
et pour les vieux bâtiments,
il y a beaucoup d'eau dans la mer.
On essaye,
je crois que c'est à l'État, au gouvernement, de réglementer, d'appuyer un peu plus sur l'accélérateur lors de l'octroi de permis de construire, de vérifier maintenant si on tient compte vraiment de cet aspect-là. Je crois que ça va résoudre, c'est à ce niveau-là.
Voilà.
Alors, vous êtes tous, j'ai envie de dire, entrepreneurs, vous vous battez pour que notre jeunesse puisse sortir de l'eau à votre niveau. Chacun apporte quelque chose. Mais alors, que pensez-vous du gouvernement? Qu'est-ce que vous attendez? Ce serait quoi votre appel
aux autorités? Un nouveau pouvoir qui arrive, certainement avec des visions. On ne fait pas de la politique, mais espérez bien de voir quelle vision
quand même le vœu qu'on formule tous.
Vous attendez à quoi avec ce nouveau pouvoir?
Voilà, déjà, moi je suis dans la lutte contre le cancer en RDC. Il n'existe pas dans mon pays de programme national de lutte contre le cancer. Le cancer, cette maladie n'est pas encore une priorité de santé publique dans mon pays. Nous sommes en train de faire ce plaidoyer auprès de notre gouvernement afin de mettre un programme qui va réglementer un peu toutes ces actions que nous faisons en synergie avec d'autres structures et associations qui militent pour la même cause avec nous. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous travaillons depuis des années sans subvention, sans soutien aucune, et nous militons dans nos efforts et nous attendons à ce que le gouvernement nous appuie aussi dans l'action. Nous
serons dynamiques.
Oui, on a des très belles lois qui prennent en compte la question de la jeunesse et de la femme d'ailleurs. Et donc, on demanderait juste que les gouvernements soient réalistes et qu'ils puissent effectivement réaliser ces promesses parce que, généralement, ce sont des programmes, ce sont des mécanismes, mais qui sont vides. Il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de financement concret. Alors, comme on sait que c'est une urgence aujourd'hui qui est d'investir dans la jeunesse, on voudrait réellement qu'on sorte des domaines politiques, politiciennes et qu'on agisse vraiment.
Monsieur Kimundi.
Oui, je dirais déjà merci parce que on s'attendait que le gouvernement puisse déjà donner même un gouvernement, un ministère pour les jeunes handicapés, les personnes handicapées, comme il l'a déjà fait, et que ça soit pas juste un ministère là que juste les gens qui viendront au bureau travailler, mais on veut vraiment travailler pour ces personnes là parce que c'est pas pour le bureau qu'ils ont donné, parce que donner déjà un bureau, un ministère, c'est une discrimination aussi. Déjà, il faut que ça soit vraiment qu'il soit très réaliste à ce qu'ils sont en train de faire.
Donc, vous êtes en train d'aller vers le quota.
Oui, exactement. Donc, qu'il soit vraiment réaliste, donc qu'il soit pas vraiment qui reste dans le bureau, parce que c'est pas un ministère qu'on doit rester toujours au bureau. Il faut rester, il faut sortir dehors, parce que dans la rue, il y a encore des handicapés qui traînent là. Ils ont besoin du soutien du gouvernement, surtout.
Merci. Et nous arrivons à la fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités.
Merci
à vous qui nous avez suivis. Merci Abdou.
Merci beaucoup Julie. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook et également sur notre site internet. Je remercie toute l'équipe de B1 qui a produit cette émission en compagnie de VOA Afrique. Merci, à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.